Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Allez, top départ évidemment des auditeurs ont la parole. C'est libre antenne pour vous. Vous choisissez les sujets qui vous inspirent. Vos appels au 3210. Vous pouvez tout nous dire, bien sûr, et dialoguer avec nous, le tout en direct. Vous êtes absolument la priorité. On va parler, bien sûr, des arrêts maladie. On va parler aussi de la situation dans les Intermarchés, de ces bagarres pour de la pâte à tartiner ou encore pour des couches. Vous êtes les bienvenus. Vos regards, ça nous intéresse. Et on va parler de l'affaire Daval, du dossier Laval, après tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on vous a expliqué. Ça se passe au 3210, vous avez à disposition le compte Twitter, RTL Midi, et à disposition aussi pour réagir et pour apporter de l'eau au moulin, et bien la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Stéphanie, Christelle nous rejoint d'abord de Savoie au 3210.
Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Alors vous voulez revenir sur l'affaire Alexia Daval?
Oui, tout
et
à fait.
Voilà, et sur la défense du mari qui explique que donc il aurait sans doute été battu par sa femme et qu'il était en tout cas sous l'emprise de sa femme qu'il a fini par tuer.
Voilà. Alors déjà, je tiens à préciser que évidemment, je ne cautionne pas qu'on puisse tuer quelqu'un pour quelle que soit la raison, et que évidemment, je comprends aussi que les parents soient dans la douleur. Là-dessus, il n'y a absolument pas de débat. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que si cet homme, s'il s'avère qu'il était battu et qu'il en est arrivé là. Aujourd'hui, le discours qu'on entend, entre autres de la ministre ce matin, voilà, il y avait une intervenante encore tout à l'heure, c'est de dire il est indécent de dire que cet homme était battu, qu'il a craqué, qu'il a peut-être tué sa femme à cause de ça. On ne devrait pas juger le fait que cette femme était peut-être violente, etc. Quand il s'agit de Jacqueline Sauvage, la situation était totalement inverse. Elle était battue, elle a fini par tuer son mari, elle a été graciée, il y a eu des actions dans les rues, il y a des actrices, il y a des personnes connues qui se sont manifestées pour dire il faut la gracier parce que c'est pas de sa faute si elle en est arrivée là parce qu'elle était battue. Et je trouve dommage que ce discours, on ne soit pas capable de le tenir à l'inverse et de se dire la femme est systématiquement victime et l'homme est systématiquement coupable. Et là, je dirais quelque part... Cet homme n'a aucune excuse. Certes, il n'en a pas, on ne tue pas, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que le débat est injuste et qu'il n'est pas équilibré. Et
moi, après, on sait moins de choses. Je me permets de vous interrompre, Stéphanie, juste une seconde. On sait moins de choses sur ce qui s'est passé, évidemment, dans le cas d'Alexia Daval avec son mari, que dans le cas de Jacqueline Sauvage, hein, puisque là, il y a eu procès, donc on a eu l'intégralité du dossier. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un homme qui a aussi maquillé son meurtre derrière. Voilà. Et qui s'est enferré dans son mensonge, et quand notre invité parlait de manipulation tout à l'heure, c'est quand même une hypothèse qu'il faut retenir, que cet homme est un manipulateur.
Peut-être, mais justement, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu sage d'attendre que le procès ait eu lieu avant de commencer à tirer des conclusions, avant de dire cet homme était comme ci, cet homme était comme ça, cette femme était comme ci, comme ça, qu'on laisse faire la justice, qu'on arrête peut-être de monter, excusez-moi l'expression, mais de monter la mayonnaise autour de ça, et qu'on ait un regard objectif sur ce qui s'est passé. Cette femme a été tuée, il y avait un problème de couple, on ne vivait pas avec eux. Je veux dire, à un moment donné, qu'on laisse faire la justice, qu'on attende d'avoir les conclusions des enquêtes, qu'on attende toutes ces conclusions. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est si demain il s'avère qu'il était battu, si demain il s'avère qu'il a pété un câble, est-ce qu'il y aura des acteurs dans la rue, des chanteurs dans la rue, un collectif d'hommes qui vont demander sa grâce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai l'impression quand même que ces derniers temps, alors avec tout ce qui s'est passé avant, avec les balances ton porc, etc., aujourd'hui, la femme est forcément victime, elle ne peut être coupable de rien. Moi, je suis une femme aujourd'hui de 44 ans, et je trouve que ce discours, il n'est pas équilibré, et qu'il faut arrêter de condamner systématiquement les hommes, de défendre systématiquement les femmes, et dans cette affaire en particulier, eh ben, laissons faire la justice, arrêtons de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, soyons neutres, et attendons de voir ce qui s'est réellement passé. Et en même temps, est-ce que ça nous regarde ?
Premier message, en tous les cas, on a bien entendu vos propos, Stéphanie. Je vais vous demander de rester là parce qu'on va écouter dans un instant un homme qui a été victime de violences conjugales et qui nous appelle au 3210. On va se tourner vers Laurent Tessier qui, lui, a un regard sur nos réseaux sociaux que vous alimentez, évidemment, pour réagir à toute l'actualité, celle que vous choisissez de commenter. Ce matin, sur RTL, Laurent, l'avocat de Jonathan Daval, a parlé de la personnalité écrasante d'Alexia Daval. Il a décrit son client comme un homme battu et ça, évidemment, ça fait réagir.
Oui, Stéphane, Christelle, les avis sont différents par rapport à vous, Stéphanie. britannique est en train d'intervenir. Une honte de parler d'un homme battu, s'insurge Christine. C'est tellement facile de dire du mal d'une personne décédée, un acte impardonnable. J'ai honte par moment de ce métier d'avocat, rajoute Bruno. Catherine parle de Jonathan Daval comme d'un monstre, lâche jusqu'au bout. Cette femme a été étranglée, elle n'est plus là pour se défendre. Mais cet homme, soi-disant battu, a-t-il déjà porté plainte pour violence conjugale? Le violent dans l'histoire, c'est lui. Marilyn réplique, et même s'il y a eu des violences entre eux, ce n'était pas une raison pour tuer Alexia. Le divorce, la séparation, ça existe. Pour Eric, ce mari a pris ses beaux-parents pour des imbéciles, en pleurant et en jouant les martyrs. Pauvre type, j'espère qu'il ne sortira jamais de prison. Non mais on croit rêver, dit Chantal. On va lui trouver des circonstances atténuantes. Personne ne sait comment vivait le couple. Laissons faire la justice.
Voilà, c'est une histoire tragique évidemment qui va diviser le pays sans aucun doute en tous les cas en termes de réaction. Ça se passe sur nos réseaux sociaux et notamment la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole. Ça se passe dès maintenant au standard. Au 3210, c'était le cas avec Stéphanie de Savoie. On va rejoindre l'Indre-et-Loire dans un instant. Et c'est Frédéric qui veut dire des choses. Il est au 3210, 3210. Vous êtes tous les bienvenus.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Et on voulait vous entendre au 3210 sur ce sujet infiniment douloureux des violences conjugales. Frédéric nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Merci de prendre du temps pour nous et justement de nous raconter ce qui vous est arrivé. C'était quoi, il y a 2 ans, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, ça remonte d'un peu plus longtemps puisque la séparation avec mon ex-épouse date d'il y a 2 ans. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, donc ça remonte à... On commence l'histoire il y a 10 ans. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais un petit peu remettre un petit peu de choses sur les mots. C'est qu'on parle de violence conjugale, et il existe deux types de violence, hein, la violence physique qui peut être, comme on entend, femme battue, et la violence psychologique, donc celle que j'ai subie. Cette violence-là, elle est perfide, sournoise, parce qu'on s'en aperçoit pas de trop, en fait. Une fois qu'on est plongé dedans, comme on dit, l'amour rend aveugle, et une fois qu'on est plongé dedans, on subit, jusqu'au jour où des vues d'extérieur nous disent, mais Fred...
Ça va pas.
Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mes parents s'en sont rendu compte très rapidement. C'est parti tout doucement. Mais c'était, quand je vous dis des violences psychologiques, c'était...
Mais par exemple, Frédéric, donnez-nous un exemple. C'est une humiliation?
Ah, c'est une humiliation permanente.
Oui.
Pour vous dire tout simplement, déjà à la maison, je m'occupais de tout. De mes enfants, du ménage. Donc j'avais des horaires, on va dire, classiques. Hein. Je commençais à 8h le matin, je finissais à 17-18h le soir. Je rentrais, je m'occupais du devoir des enfants, j'adore la cuisine, donc je cuisinais énormément, le ménage, tout ça. Enfin bon, voilà. Et c'était sans arrêt. Donc dès que je me posais sur le canapé, dès que j'entendais sa voiture arriver, il fallait que j'éteigne la télé. Si elle arrive, malheur d'arriver, que la télé était allumée, c'était soufflé obligatoire, quoi. Et je peux vous dire que ça paraît bizarre, hein, de dire, mais on peut pas, enfin, une femme peut pas parler comme ça à un homme, ni un homme ne peut parler comme ça à une femme. Je fais pas loin d'un mètre 90, 110 kilos, donc une belle bête, je suis bien posé dans le fond de mes baskets. Et pourtant, la pression est telle, je sais pas, psychologiquement, je sais pas ce qui se passe, mais la pression est telle qu'on acquiesce. On se dit, oh oui, ma chérie, oui, d'accord, ok, ouais, alors voilà, on fait tout pour ne pas que la situation s'envenime et que ça parte dans des proportions pas possibles. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Un autre cas, par exemple, j'ouvrais un placard. Madame était dans la salle de bain, j'ouvrais un placard. J'entendais de la salle de bain, qu'est-ce que tu manges? Vous voyez, jusqu'où ça peut aller, quoi. Et c'était ça, en permanence. Donc moi, j'ai vraiment eu pas de bol. D'ailleurs, il y a même des amis qui m'ont conseillé de faire un livre. C'est que j'ai doublé la mise. C'est-à-dire que j'ai eu 10 ans avec une première femme, à la suite de ça, donc il y a eu séparation, j'ai retrouvé une deuxième personne, une relation qui a duré 3-4 mois, et là c'était pire, puisque là je me suis retrouvé avec une personne atteinte de perversion narcissique, bipolarité, et j'ai vécu la pire des descentes aux enfers que j'ai pu avoir.
Oui, mais vous êtes parti, vous l'avez quitté assez rapidement.
Ah, j'ai quitté assez rapidement, mais il y a eu quand même gros dégâts collatéraux.
Alors justement, comment faites-vous à ce moment-là pour se défaire de cette emprise?
C'est très dur, très difficile. C'est énormément difficile. Alors j'ai eu la chance d'avoir un soutien familial et des amis qui étaient proches. Et il y a, à mon avis, hein, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir et à sortir la tête de l'eau et à tout refaire, parce que bon, j'ai quitté mon emploi, j'ai tout quitté, j'ai quitté la région, j'ai tout quitté. C'est la seule, enfin, pas moi, dans mon cas, c'était la seule solution pour oublier tout ça, me séparer de tout ça, Et ne vraiment ne plus subir aucun assaut. Quoi.
Et vous avez vraiment, réussi à en parler facilement avec vos proches, parce que il faut le dire, il y a un tabou quand même.
Il faut l'avouer.
Il y a un tabou pour les hommes.
C'est violence.
Un homme qui ose dire « je me suis laissé violenter par ma femme ou par ma compagne », c'est beaucoup plus rare.
C'est plus rare, ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. Hein. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pourtant j'ai beau être une belle bête, bah voilà quoi, ça atteint toute... Je dirais tout âge, tout physique, tout voilà quoi. On pourrait dire bah ça vient sur des peut-être des hommes plus rachitiques, plus. Eh ben non, ça atteint tout le monde. C'est de la manipulation mentale.
Oui, c'est de la violence psychologique d'abord.
Exactement.
Que vous avez vécu.
Exactement.
Il y avait des enfants au milieu de tout ça, Frédéric, ou...
Il y avait des enfants. Ouais. Malheureusement, il y avait des enfants. Donc c'est pour ça aussi que j'essayais d'arrondir les angles au maximum. Pour justement limiter la casse, qui était relativement compliqué. Mais c'est vrai que, oui, on en vient à essayer de trouver des compromis, surtout, pour pas blesser un tel, pour bah, notamment, en priorité, c'était les enfants, ne pas qu'ils ne soient pas témoins de cette violence, enfin, oui, on peut appeler ça une violence, hein, de cette violence qu'il y avait, pour, voilà, quoi. Et c'était vraiment très, très, très compliqué.
Mmh. Aujourd'hui, très compliqué. On peut terminer sur une note positive, ça va aujourd'hui ?
Ah, très bien, parfaitement. Ah, parfaitement. J'ai la chance d'avoir rencontré une femme géniale, exceptionnelle, qui est au courant de tout, hein, parce qu'elle connaît mon parcours, et voilà, quoi. Donc, on a été clair dès le départ.
Et la vie est belle.
Tout à fait.
Mais,
alors juste,
oui, Frédéric,
excusez-moi, juste pour en revenir à ce que disait comment l'auditrice qui était juste avant moi.
Oui.
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit. Par contre, il y a une chose sur laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est sur la violence. Il y a vraiment la violence physique. Donc c'est peut-être pas une violence physique dans leur couple, mais peut-être une violence morale. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à la personne que j'ai au téléphone du standard RTL, oui. C'est que on peut arriver, hein, je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé, certainement pas, mais je me suis posé la même question, où à un moment donné, on se dit, je vais péter un plomb. Si ça continue comme ça, je vais péter un plomb. Et si on n'a pas une bulle, si on n'a pas un soutien moral, psychologique, familial,
si
amical...
Si on n'est pas assez fort psychologiquement, oui.
On craque.
Oui. Oui.
Tout simplement, on craque.
Je rappelle juste rappeler un petit chiffre, Frédéric. Les hommes représentent 27% des cas de violence conjugale. Donc, on en parle assez peu, mais c'est quand même assez énorme, ce chiffre.
Et on en a parlé grâce à vous, Frédéric. Hein, édifiant témoignage et émouvant aussi. On est ravis, en tous les cas, qu'aujourd'hui, vous soyez un homme heureux. Merci d'avoir pris du temps pour nous depuis l'Indre-et-Loire. Vos coups de fil et les débats et les sujets qui vous intéressent, ça se prolonge, bien sûr, dans Les Auditeurs ont la parole. C'est au 3210 3210. Le standard est pour vous.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Les réseaux sociaux accessibles pour vous pour commenter l'actualité. Le compte Twitter RTL midi, la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Le standard aussi, 3210. Vous êtes les bienvenus, 3210. Et sur le dossier Laval, on prolonge avec Laurent qui nous rejoint de Gagny.
Oui, bonjour. Bonjour, oui, c'est Laurent à l'appareil. Oui,
bienvenue.
Merci de me donner la parole. Mon propos est beaucoup moins maintenant pertinent, je dirais, après ce que je viens d'écouter, le témoignage précédent. Mais je souhaitais quand même réagir à la déclaration de Marlène Schiappa ce matin. Oui. Moi, j'étais très choqué qu'un membre du gouvernement en exercice intervienne directement dans une affaire judiciaire en cours. Je suis pas juriste, mais quand même, enfin, il me semblait quand même qu'un peu de retenue, que la séparation des pouvoirs, etc., etc. Et personne, enfin, en tout cas, au niveau de la rédaction, ne semble avoir réagi beaucoup. J'ai entendu des commentaires, je trouvais tout à fait bien que la ministre réagisse de cette manière. Moi, j'étais extrêmement choqué et outré même, pour tout vous dire, de sa réaction. Deuxièmement, je voulais réagir justement sur le fond à son propos, puisqu'en fait, en somme, elle a déclaré que, concernant l'affaire en cours, la victime, c'est bien sûr la femme, elle est morte, la malheureuse.
Oui.
Et que donc forcément, c'était elle la victime, et que forcément, le mari ne pouvait être que coupable. Alors moi, si ce genre de raisonnement, que je qualifie de primaire, doit être tenue. Je voudrais demander à Mme Schiappa ce qu'elle pense de l'affaire Sauvage, Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari. Dans l'affaire Sauvage, la victime, c'est le mari, c'est lui qui a été tué. Et la femme, c'est la coupable. Elle n'a aucune circonstance atténuante, c'est ça ? Donc, si vous voulez, avec ce genre de raisonnement, je répète, aussi primaire, de la part d'un membre du gouvernement, on peut aller très très loin dans les dérives et dans les distorsions d'appréciation des situations. Je suis quand même très très surpris. C'est des problèmes complexes. Tout à l'heure, vous avez reçu une personne, une dame, qui a également tenu des propos qui m'ont choqué. Parce que forcément, l'homme est forcément coupable. Et la femme est forcément la victime. Je pense qu'il faut arrêter là. Le coupable, c'est celui qui initie les violences, qui pratique la violence, qu'elle soit morale, physique. Mais je crois qu'il faut aussi faire preuve d'un petit peu de nuance. Et là, actuellement, la nuance, on la perd. Mmh. Tout à l'heure, votre interlocutrice était dans une forme de récupération, je dirais, politique, au sens large du terme, de cette affaire, qui était extrêmement choquante. Et j'aurais bien aimé vous entendre réagir face à elle, en disant que c'est pas le moment de récupérer une affaire, un drame familial. C'est un drame, c'est une tragédie, cette pauvre femme qui a été assassinée par son mari, les parents, etc., etc. Mais la récupérer à des fins de propagande, etc., je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Notre invitée n'avait pas un discours politique, hein, si je puis me permettre. Elle représente une association qui s'appelle Mémoire Traumatique et Victimologie. Elle est psychiatre et elle prend en charge, évidemment, le plus souvent des femmes qui sont victimes de violences
conjugales. Elle a eu un discours globalisateur, j'ai bien entendu, où les femmes étaient globalement les victimes et les hommes globalement les coupables. Et c'est dans ce sens-là que je dis c'est un discours politique, pas au sens politique, parti politique, mais au sens d'extrapolation à la société. C'était extrêmement globalisateur et c'est de ce point de vue-là que c'est choquant. Voilà, ce qu'on pouvait lui rétorquer, c'est que dans l'affaire qui nous concerne, le mari était présenté comme un gendre idéal. Je ne pense pas que c'était un mari violent. Mais enfin, encore une fois, je ne connais pas l'histoire et je ne veux même pas...
Voilà.
Moi aussi, je vais rentrer dans ce...
Voilà.
Je vais faire ce que je critique chez les
vous
autres.
Vous allez extrapoler, ça va vous énerver finalement.
Exactement. Donc je crois qu'il faut faire très très attention à ce que l'on dit, et surtout quand on est ministre,
voilà,
se faire preuve de mesure.
Séparation des
pouvoirs.
Merci
de m'avoir écouté.
Merci Laurent.
Bonne
journée,
au revoir.
Merci.
Allez, on change de sujet parce que vous nous appelez aussi pour parler de ce qui fait l'actualité, des sujets de société par exemple. Un autre dont on a beaucoup parlé la semaine dernière avec les Nutella et donc ces bagarres pour les promotions dans les Intermarchés. On a eu les mêmes scènes pour des couches culottes, toujours dans des Intermarchés. On a eu un ministre de l'économie sur RTL ce matin qui a dit « J'ai reçu Intermarché, la direction, je leur ai demandé d'arrêter » et on continue. Ça vous fait réagir? On a Barbara au 3210 en Corrèze. Bonjour Barbara.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie. Alors...
Comment vous appréciez les choses, vous?
Ben écoutez, j'ai réagi et j'ai décidé d'appeler en entendant tout à l'heure... Le côté promotionnel, est-ce que c'est important pour les personnes qui ont du mal à finir leur budget, ce que je trouve oui, important et tout à fait pertinent, judicieux. Moi, ce que je trouve dommage, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je trouve dommage, c'est de faire de la promotion aussi basse. Enfin, bon, après, on verra, il y a enquête pour savoir s'ils sont dans les règles du commerce, etc., etc., pour avoir pratiqué ces prix. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que voilà, ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a une partie de sensibilisation, de responsabilisation des grands distributeurs sur l'alimentation, le bien manger, la qualité de la nourriture, etc. Et c'est de pratiquer des prix comme ça, c'est-à-dire qu'on encourage des personnes à consommer et à acheter des produits qu'on sait pertinemment, qui n'ont pas une nutrition idéale, qui sont composés pas seulement d'aliments, mais d'éléments qui ne sont pas... je ne vais pas parler de cancer, etc. Je ne suis pas, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Voilà. Mais je trouve ça dommage d'encourager. Aujourd'hui, on est à un stade où on voit que les aliments sont... en termes de qualité nutritionnelle, que ce soit pour les adultes, les enfants, peu importe. Et voilà, c'est d'encourager des promotions pour consommer des produits.
Le fait qu'on assiste à des scènes de bousculade, là, c'était plus pour le Nutella, c'était pour des couches culottes, Barbara.
Alors, les couches culottes, je l'ai appris en écoutant votre émission.
Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ça?
Écoutez, quoi en penser, là, je vous avoue, vous me prenez un petit peu à chaud, mais aujourd'hui, on est quand même dans un monde de consommation. Ce sont des réactions humaines aujourd'hui dans un monde capitaliste et voilà, auquel on doit forcément s'attendre. Moi, je serais très surprise d'entendre les personnes qui ont décidé, alors que ce soit Intermarché ou que ce soit le fabricant, la marque, voilà, qui disent ah mais on pouvait pas savoir, on pouvait pas anticiper. Bien sûr que si, il y a des personnes qui sont en charge du marketing, qui sont en charge, qui connaissent ça par cœur, qui étudient les cibles, les consommateurs, pour avoir un peu travaillé dans ce métier-là, on sait pertinemment quelles sont les réactions, enfin tout est étudié, que des choses qui ont forcément été anticipées et automatiquement prévues. Ça, oui, ça me choque. Après, oui, c'est une réaction logique de la part des consommateurs, surtout quand ce sont des personnes qui ont peu d'argent, qui comptent, qui vont faire leurs courses avec leur calculatrice.
Chaque centime est important, bien sûr.
Exactement. Donc, c'est bien sûr que ça, c'est prévisible. Voilà, ce sont des choses prévisibles, c'est dommage. C'est malheureux qu'on soit dans une société comme celle-ci, mais malheureusement, il y a des personnes, bah oui, qui sont à 1 euro près, qui comptent. Donc, voilà. Donc, oui, pour moi, il y a une part de responsabilité. Et en même temps, je trouve ça, de faire des promotions, parce qu'il y a des personnes, ça les aide, quoi. Mais voilà.
C'est Barbara qui a pris la parole, donc, depuis Corrèze. Vous pouvez limiter, vous êtes les bienvenus, vos coups de gueule, notamment, et vos critiques, et puis vos regards, tout simplement, et appréciations de la situation. Ça se passe au 32-10. Vous avez également les réseaux sociaux. Laurent Tessier, on réagit pas mal sur la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole. On posait la question, est-ce qu'il faut mieux encadrer les promotions?
Ah non, nous dit Petit Fab, hein, mais civiliser les gens, oui, il est inconcevable de se taper dessus pour un pot de Nutella ou un paquet de couches. Yodip peut comprendre toute cette frénésie. Je me rappelle avoir fait jusqu'à 20 km jusqu'à l'Intermarché qui vendait le paquet à 16 € et j'en prenais à chaque fois le maximum autorisé. Les couches, c'est un sacré budget. Cher gouvernement, il serait mieux d'assurer aux gens un salaire décent plutôt que d'encadrer les promotions. Je rigole quand j'entends Bruno Le Maire parler, rajoute Michel. Il n'est pas vraiment concerné par les promos. Ça m'étonnerait qu'il les attende pour faire des économies. Et Karine appelle de son côté la grande distribution à vendre au juste prix et éviter la surconsommation.
Voilà les réseaux sociaux, le compte Twitter RTL Midi, suivi par Laurent Tessier, et puis la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole. On prolonge ce débat sur les promos. Après Barbara et la Corrèze, on va voyager, on va aller dans le Morbihan. C'est Patrick qui a des choses à dire. Vos appels au 3210, 3210. À tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Faut-il mieux encadrer les promotions? C'est la question du jour sur RTL.fr. Vous êtes 60% à nous dire oui, 32% à penser le contraire. On accueille Patrick qui est en Bretagne. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour, bonjour RTL. Merci d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie.
Simplement, je propose, moi je pense qu'Intermarché, comme les autres grands magasins, ils ne devraient pas faire de publicité sur des grosses promos comme ça. Je pense qu'ils devraient mettre le produit en tête de gondole dans le magasin, sans en parler, et les gens ils découvriraient cette promo, et ils en profiteraient au bon moment. Mmh. Ça serait un peu comme une surprise, entre guillemets. Et je pense qu'il y aurait moins ce problème de foule qui arrive tout d'un coup devant le produit, et puis qui se chamaille comme des gamins, j'ai envie de dire, pour un produit comme le Nutella ou des couches pour bébé. Je trouve ça complètement ridicule. Mmh. Et je pense que sans publicité comme ça, ça serait quand même plus raisonnable. Et en plus, pour le magasin, ça serait bien, parce qu'au moins les gens, ils viendront au magasin et ils pourraient voir, on va voir ce qu'il y a aujourd'hui comme promo, et puis voilà, ils en profiteraient. Tout en sachant qu'il faut quand même préciser qu'il faut qu'ils prennent qu'un produit et pas deux, enfin un ou deux produits plutôt, mais pas plus, parce que sinon... Sinon, ils dévalisent le stand en 2 minutes. Quoi.
Ce qui était le cas la semaine dernière pour les pots de pâte à tartiner, là. C'est-à-dire qu'ils avaient limité à 3.
Voilà. Bon. Et là, sur les couches culottes, nous disait Samuel Goldschmidt à Metz, c'était juste un
paquet.
Et derrière la caisse. Bah, donc il fallait aller le chercher. Voilà, ça c'était pour éviter des scènes d'émeute, entre guillemets. Mais ils avaient quand même prévu la police, ça vous paraît pas fou?
Oh, mais ça c'est pas normal. Pour avoir la police aux frais du contribuable, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Ça aussi, c'est pas normal pour un produit. Donc, je pense aussi, à un moment donné, ces magasins comme Intermarché, ils devraient aussi, entre guillemets, assumer et de dire, bon, voilà, on fait plus de publicité, on fait quand même les promos. Je trouve que c'est quand même sympa pour tout le monde, au moins tout le monde en profite, mais pas réservé à des gens qui se lèvent très tôt le matin pour faire la queue à l'ouverture du magasin et qui s'acharnent devant le stand, du produit en question. Et puis voilà, qui chamaille. Non, c'est pas possible. Ça.
Surtout que là, on est parti pour un mois. Je crois bien que les promos en question d'Intermarché, c'était un mois de promo. Hein,
en même temps, s'ils font un mois de promo sans préciser de produit, ça peut être bien aussi.
Ouais, absolument.
Il y a encore une semaine.
Quel est votre sentiment, Patrick, sur le fait qu'un ministre, et on l'entendait ce matin sur RTL, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, nous dit j'ai reçu Intermarché pour leur demander d'arrêter et qu'Intermarché, il continue.
Bah,
c'est une impuissance du gouvernement par rapport à ça?
Pardon ?
C'est une impuissance du gouvernement par rapport à ça, selon vous ?
Oui, peut-être, mais je pense qu'Intermarché, c'est un magasin, il fait du commerce, il pense d'abord à ses clients, quoi. Je veux dire, après, ce que dit le ministre, effectivement, lui, je suis pas sûr qu'il aille à Intermarché acheter des pots de Nutella ou faire la queue, enfin, voilà. Je suis pas sûr de ça, donc, je pense qu'il faut être plus raisonnable, on va dire, et laisser les promos comme ça, quand il y a des belles promos comme ça, les laisser, mais ne pas faire de publicité, tout simplement. Quoi.
Merci Patrick, du coup de fil depuis le Morbihan. On vous salue, merci de votre fidélité.
À bientôt, et on a Antoine qui est à Grenoble. Bonjour Antoine.
Bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Bonjour Antoine.
Vous êtes dans la grande distribution, donc ça nous intéresse tout particulièrement votre avis sur la question. Il faut les faire, ces promos à prix cassé ou pas ? Quitte à voir ce genre de scène ?
En fait, moi je suis franchisé d'un grand groupe alimentaire qui a plutôt choisi au-delà des prix, puisqu'il faut savoir rester un peu concurrentiel par rapport à d'autres enseignes, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que il y a des enseignes qui s'engagent dans les filières de qualité, dans le travail avec les producteurs locaux. Et je pense que c'est vers ce type de comportement qu'il faut évoluer, parce que le prix pour le prix, on l'a vu dans certains pays, ça a fait de la casse par rapport aux emplois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on entend à longueur de journée une enseigne de hard discount, pour pas la citer, lui faire de la publicité, qui fait des prix mais tous les jours. Et moi, je suis exploitant franchisé. Et je me dis, mais à un moment, qu'est-ce que le gars, à la fin, il gagne ? Et qu'est-ce que le producteur, il a effectivement ? Et là, je pense qu'il y a des choses à faire en termes de législation. Après, au-delà de ça, de toute façon, le vrai juge à la fin, c'est le consommateur.
Moi, tous les ans, consommateur, il va directement ou automatiquement aller vers le prix le plus bas ou pas ?
Ben, pour une grosse majorité.
Ouais.
Alors, il y a des consommateurs qui commencent à se dire on va faire attention à ce que ce soit produit pas trop loin de chez nous, on va faire attention à la composition, on va faire attention, un peu plus attention, mais il y a aujourd'hui une grande majorité des gens qui font le choix de mettre leur budget dans le téléphone portable, leur abonnement à la télé, enfin voilà, des choses comme ça. Et ce comportement-là, il va être difficile à faire changer. Moi, je fais un test tous les ans avec les fraises de France et les fraises d'Espagne. Et ben malheureusement, je vends trois plateaux de fraises d'Espagne pour un plateau de fraises de France. Et si je propose pas les deux produits, et ben mon client il va à la concurrence.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que l'augmentation du seuil de revente à perte, comme le prévoit le gouvernement, est une bonne chose ?
Oui, je pense que ça fait partie des bonnes pistes. Après, aujourd'hui, moi je suis franchisé, donc la mécanique de construction du prix, je la maîtrise pas complètement. Mais pour avoir été directeur salarié avant, il y a des choses où entre les remises de fin d'année, les promos, l'achat du linéaire, enfin il y a des montages qui sont faits et qui aujourd'hui rendent assez opaque la construction réelle.
Ça c'est le problème, c'est-à-dire qu'au fond aucun d'entre nous ne connaît le juste prix aujourd'hui, Antoine. On ne sait pas ce que valent les choses.
Exactement.
Est-ce qu'une grande surface, elle gagne de l'argent sur le fameux soda à bulles qu'on connaît, qui est le plus connu dans le monde, ou sur la pâte à tartiner qui est dans le viseur en ce moment ? Une grande surface, elle se fait de l'argent là-dessus ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Ça, c'est des produits. Ça, c'est des produits où on vend en perdant de l'argent par rapport à l'exploitation. Après, j'entends dire dans ces cas-là, les grands distributeurs, ils se rattrapent sur les fruits et légumes, le pain, la boucherie, des choses comme ça. Mais s'il y avait un équilibrage des différentes choses, à un moment, le but du jeu, il est aussi que l'entreprise, alors moi, en tant que franchisé, c'est encore plus fort, mais que l'entreprise, elle puisse vivre, payer ses salariés correctement, et voilà. Il n'y a pas forcément d'idée de se dire, si on choisit d'équilibrer les marges de cette manière-là, c'est pour gagner plus, toujours plus et toujours plus. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de citoyenneté et de civisme à mettre dans la consommation aujourd'hui, mais il ne faut pas taper que sur les distributeurs ou que sur les industriels ou que les producteurs. Je pense que la clé de tout ça, à la fin, c'est le consommateur. Et vous et moi, à un moment, est-ce qu'on n'est pas aussi confrontés à des choix comme cela dans d'autres registres que l'alimentaire, par exemple ?
Pensez à quoi ?
Par exemple, quand on veut acheter des vêtements ou une voiture ou je ne sais quel autre bien de consommation, Est-ce qu'on ne cherche pas aussi, nous, à avoir le prix pour le prix, en se disant ah bah si je peux gagner Et donc l'alimentaire, c'est quelque chose de tous les jours, donc c'est ça qui crispe aussi l'opinion.
Voilà, intéressant votre regard en tous les cas de ce milieu-là, ce monde professionnel. Merci Antoine du coup de fil depuis Grenoble. 3210, vos prises de parole. On va revenir au dossier d'Aval, parce que alors ça, évidemment, vous prenez d'assaut le standard au 3210. Vous avez des choses à dire. C'est 3210, les réseaux sociaux, la page Facebook, RTL, les auditeurs ont la parole. Arlette veut s'exprimer, Hervé également et Alexia au 3210. À tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière,
Stéphane Carpentier.
Et ce qui nous fait réagir au 3210, c'est le meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathan, un homme qui était sous son emprise, explique son avocat. Alexia est à Paris. Bonjour Alexia.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue.
Merci, merci, bonjour à tous.
Ça vous fait réagir, hein, les explications de l'avocat de Jonathan.
Oui, énormément.
Dites-moi.
Énormément, et aussi ceux des deux derniers intervenants, même si le deuxième était un peu plus modéré. Je trouve ça très bien d'entendre de plus en plus les hommes parler de la violence conjugale et même de la violence morale. Par contre, il y a juste une petite chose que j'aimerais quand même préciser, c'est que sur ces 27% d'hommes tués, ça a été démontré que la moitié était violent envers leur compagne. C'est aussi une petite nuance que je voudrais apporter.
Oui, c'est très important, vous avez raison.
Voilà, voilà. D'ailleurs, donc moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, entre 15 et 18 ans. J'étais d'ailleurs intervenue en émission Allô Docteur avec la psychologue qui est passée tout à l'heure.
Avec Beryl Salmonen.
Exactement. Pour parler de ce sujet, donc moi j'ai été victime donc de violences physiques et morales. D'ailleurs, quand on est une femme, on a aussi la violence. Donc on a certes la violence morale, mais aussi la violence physique, et on peut pas trop y échapper. C'est-à-dire que c'est là où j'ai envie aussi de mettre une petite nuance, c'est que physiquement, généralement, on est quand même un petit peu en infériorité. Donc déjà, il y a cette chose-ci. Et en plus, je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. C'est que, oui, on peut trouver des circonstances atténuantes, etc. Mais ce que voulait dire l'intervenante, la psychologue tout à l'heure, c'est que, généralement, c'est quand même très étrange, mais dans toutes les histoires de violence conjugale, c'est quand même la personne qui est la victime qui est généralement, et se fait passer généralement pour quelqu'un, tout le monde la prend quand même pour quelqu'un d'assez méchant, parce qu'elle est la personne est insultée, la personne est et elle n'a jamais le bon rôle au vu des gens qui sont autour, alors que la personne qui est violente arrive toujours quand même à s'en sortir et avoir le beau rôle. Donc cette histoire, elle reflète quand même un peu la violence conjugale en général, les histoires de violence conjugale en général.
Alexia, vous avez connu ça?
Oui.
Et l'homme avec qui vous étiez à ce moment-là, tout le monde le respectait?
Bien sûr, c'est bien ça. Sûr. S'il y a quelqu'un, moi quand j'ai entendu ce qu'a dit l'avocat sur oui, Alexis avait un caractère fort, etc. C'était mon cas. C'était mon cas. Ce qu'a dit l'avocat, on aurait très bien pu le dire pour mon histoire, pour mon affaire. Comme à mon avis, pour la plupart des affaires, c'est un grand classique. Mais bien sûr, parce que quand on est insulté, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de caractère, c'est pas pour ça qu'on va pas se défendre.
Bien sûr.
C'est beaucoup plus difficile que ça, et en plus, il y a une dépendance affective qui s'installe. Il y a la peur aussi, et puis ils vont faire en sorte qu'on réagisse devant du monde. Donc, pour dire, vous voyez comment est-ce qu'elle est. Vous voyez comment elle réagit avec moi. Donc, moi, c'est ce côté-là. Et par rapport à l'histoire de Jacqueline Sauvage, elle l'a dit dès le début. Voilà, moi j'étais violentée, il m'est arrivé ça. Elle n'a pas essayé de tromper son monde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange, et c'est le fait de vouloir toujours se faire passer pour le gentil et pour quelqu'un comme ça. Ne vous inquiétez pas
Vous relevez le côté manipulateur, comme le faisait Muriel Salmona tout à l'heure dans l'interview.
Exactement, bien sûr. Et c'est surtout, il ne faut pas se laisser tromper. Quand quelqu'un, c'est généralement pas le gentil qui est tout blanc. Surtout dans ce genre de situation.
Oui. Alexia, restez là, hein. On va tourner parce qu'il y a du monde qui veut s'exprimer. Vous êtes la bienvenue si vous voulez intervenir une nouvelle fois. Hervé nous a composé le 3210 pour nous rejoindre depuis la Seine-et-Marne. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous, dites-nous.
Dans un premier temps, c'est malheureux ce qui a pu arriver dans cette famille, dans ce couple. Mais qui permet quand même de mettre le doigt sur un phénomène de société qui était, je pense, tabou. Mmh. C'est-à-dire la violence que subissent les hommes, que moi j'ai subie. Mmh. J'étais donc avec une femme pendant 19 ans, alcoolique, violente, dépressive chronique. Et après coup, maintenant, je me demande si pas manipulatrice, évidemment, pour que je sois tombé dans ce piège de ne pouvoir rien dire, rien faire. Et le témoignage d'Alexia, je crois, ou des autres personnes que j'ai pu entendre avant, bah, malheureusement, me rassure un peu. Je me rends compte que bah, je n'étais pas une victime lambda, j'étais pas n'importe, pas non plus cette andouille que je me suis dit pendant des années. Voilà, mais
en fait, c'est encore, vous êtes en train de nous dire que c'est encore plus difficile à vivre parce que vous êtes un homme ?
Bah, malheureusement, oui. J'en ai parlé, moi, à des gendarmes, parce que voilà, je suis ancien militaire et je travaillais un peu avec eux, notamment avec la prévôté. Et donc, j'ai soumis l'idée et les gars sont gossés, quoi. Ils ont rigolé. Ouais, bon, ils ont battu. Ouais, bon, le gars, il rentre. Puis voilà, quoi, quand même. Mmh. Ben, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vicieux que ça. Et moi, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait, quelque chose, que j'étais tombé vraiment dans le travers, ce qu'on appelle le syndrome de la femme battue. Et c'est une nièce de mon ex-femme qui, j'ai changé par Internet et qui me dit mais dis-moi ce que tu me racontes là, on dirait le syndrome de la femme battue, quoi. Mmh. Et la seule fois où j'en ai eu ras-le-bol, parce que bon, j'ai eu coup de couteau, nez cassé, côte cassée, des coups de poing réveillés à 3h du matin pour me faire insulter. Voilà.
Oui, c'était des violences, c'était une humiliation, mais il y avait aussi des violences physiques. Est-ce que vous avez porté plainte, Hervé, à un moment ?
Ben, moi, j'ai pas porté plainte, mais au coup de couteau, j'ai quand même, je suis allé me faire faire des points. J'ai eu quand même 5 points à la main. Et vu la situation, l'angle, ainsi de suite, l'urgentiste, médecin urgentiste a pris la police et le psy. Et le psy m'a dit, bon, ben, vous allez rester en chambre cette nuit. Et la police, il y a eu une saisine automatique.
D'accord.
Voilà, donc moi j'ai pas vraiment porté plainte. Alors elle a reçu au courrier, elle a vu que ma plainte était en cours et j'avais bien demandé, voilà. Donc elle est tombée là-dessus, j'ai eu le droit évidemment à une crise. Mais enfin, voilà, là où je voulais en venir, c'est que je sais pas si c'est le cas de ce monsieur, mais l'avantage de cette déclaration, c'est que bah, ça enlève un voile sur un phénomène sur lequel on n'osait pas parler avant, quoi. Mmh. Voilà.
C'est-à-dire que ça peut permettre aussi de libérer la parole des hommes.
Alors, il faut que la société soit prête à recevoir et à comprendre. Quoi. Mmh. On parle de l'égalité des sexes, mais est-ce qu'il y a une vraie égalité des sexes quand on voit, quand un homme dit « je suis battu », ça fait un peu sourire les gens, même voir des femmes, alors que c'est le même phénomène d'emprise psychologique, physique, de violence et de manipulation, que ce soit un homme ou une femme. C'est effectivement, comme disait Alexia, il y a une dépendance affective, intellectuelle. Et qu'on soit un homme ou une femme, je vois pas en quoi ça change. On a des sentiments aussi.
Oui, oui. La douleur, c'est aussi douloureux dans un cas comme dans l'autre. Merci beaucoup. Merci d'avoir eu le courage de témoigner. Hervé.
Absolument.
Merci.
On salue Alexia aussi. On s'excuse auprès d'Arlette qui voulait intervenir depuis Marseille aussi et d'autres auditeurs et auditrices au 3210. Mais on a fait le maximum pour faire intervenir le plus d'auditeurs encore aujourd'hui, puisque vous le savez, c'est votre antenne. Vous faites des choix et on vous écoute très longuement, le plus longtemps possible en tous les cas. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Vos appels au 3210 et les réseaux sociaux pour commenter l'actualité, notamment la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole.
Dans un instant, rions un peu avec Laurent Gérard.
Vous écoutez RTL.